ceux qui sont aussi dans la connexion. Bonne année à tous. On continue aujourd'hui avec notre étude de Corinthiens. Et aujourd'hui, le titre que nous avons de cette série, c'est Unis dans l'esprit, un seul Dieu, travailleur dans un seul corps. Le fait que Dieu donne trois chapitres sur les dons spirituels indique qu'il est de la plus grande importance de comprendre comment l'Esprit de Dieu agit à travers le corps de Christ. Et né dans le chapitre 12, 1 Corinthiens 12, 1 à 11, levez-vous pendant qu'on va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si c'est né par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Que Dieu bénisse sa parole. Demeurez, s'il vous plaît, debout pour la prière. Père, nous te remercions de préserver ta parole pour nous. La parole qui avait été écrite originellement à l'église de Corinthe. Alors, nous prions que, par ton esprit, que tu puisses nous rendre capables de comprendre ta parole, de recevoir ce que tu as pour nous, et aussi de vivre selon ta volonté. Nous te remercions parce que tu demeures en nous, Esprit de Dieu. Nous te remercions parce que tu es au milieu de nous comme le corps du Christ. Et nous te faisons confiance de nous guider dans le nom de Jésus. Nous prions. Amen. Pouvez-vous asseoir. Parfois, quand il arrive d'aborder cette conversation, certaines personnes ont peur ou hésitent à avoir cette conversation. Pourquoi? Certains diront, j'aime Jésus, mais je ne suis pas si sûr en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il est important de se rappeler que le Saint-Esprit est un avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est un membre à part entière de la Trinité. Dans Jean 14, 16, 17, Jésus dit à ses disciples, il se prépare pour partir, il dit qu'il enverra un autre consolateur pour habiter en eux. Il dit qu'il envoie un autre consolateur de même type que le premier. L'autre consolateur. Jésus est le premier consolateur. L'autre consolateur est de la même essence et de la même mission que Jésus. Il est donc totalement irrationnel de dire « j'aime Jésus, mais j'ai des réserves concernant le Saint-Esprit ». Certains peuvent être familiers avec le phénomène spirituel dans d'autres religions. Les expériences extatiques, le parler en langue, dans d'autres, les guérisons spirituelles et la communication avec les esprits. Alors, ils peuvent se détourner du Saint-Esprit et des dons spirituels parce qu'ils ne veulent pas être trompés. Notre passage aujourd'hui aborde cette préoccupation. Paul en avait parlé Et souvenons-nous que les imitations et les tromperies de Satan ne devraient pas déterminer comment nous suivons Jésus et comment nous vivons par l'Esprit. Certains peuvent être familiers avec le contexte d'église où certains dons spirituels sont élevés au-dessus des autres. Si nous devrions utiliser l'analogie de l'équipe de hockey, nous pourrions dire que l'équipe de hockey de l'église a 4 lignes. Alors sur la première ligne, il y aurait les apôtres, les prophètes et ceux qui parlent en langue. Sur la deuxième ligne, il y aurait les dons de foi, des guérisons et des miracles. Et sur la troisième ligne, des dons d'enseignants, des bergers et d'évangélisation. Et sur la quatrième ligne, des dons d'administration, des miséricordes et des services. Qui veut être à la quatrième ligne? La quatrième ligne passe la plupart de son temps sur le banc. Dépendamment de la théologie de l'Église, ces lignes peuvent être réorganisées. Dans certaines églises, la miséricorde et le service sont sur la première ligne. Dans d'autres églises, l'enseignement, la bergerie et l'évangélisation sont sur la première ligne. Dans certaines autres églises, les langues, les prophéties ne sont plus dans l'équipe. Ils ont été échangés contre quelque chose d'autre. L'analogie a ses limites. Là où il y a une soif de statut et de reconnaissance, les gens chercheront à avoir les dons les plus valorisés, ceux de la première ligne. À Corinthe, le problème spécifique était une glorification du don de langue. C'était le plus élevé et le meilleur. Ceux qui avaient le don de langue étaient sous des projecteurs. Ils recevaient l'attention. C'est les seuls dons présents dans chaque liste de dons de ces 3 chapitres. Il est cité 21 fois. À Corinthe, non seulement il y avait un enthousiasme singulier sur les langues, mais il était aussi exercé d'une manière qui causait de la confusion dans les réunions et dans de la famille. Un esprit de compétition comme en témoignent les chapitres 1 à 4. Et cette tendance à la super spiritualité parmi les Corinthiens est visible tout au long de la lettre. Chapitre 7. Pas besoin de corps dans le futur, chapitre 15. Et parlant déjà des langues des anges dans cette vie, certains Corinthiens définissaient spirituel comme un état frénétique, incontrôlé, et les discours extatiques où on était un exemple. Il était le plus concentré sur leur super spiritualité qu'il ne l'était sur Dieu lui-même. Et c'est peut-être une mise en garde pour nous. Nous pouvons aussi devenir plus épris par notre don spirituel, de notre ministère dans lequel nous participons ou de notre théologie que nous ne sommes attachés à Dieu. Comment Paul aborde-t-il cette question? Il saisit l'occasion. L'accent malsain des Corinthiens sur le don de langue offre une excellente opportunité d'avoir une conversation beaucoup plus large sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la famille de l'Église. Dans le nom de où les gens font le ministère. Même au milieu de l'utilisation abusive des dons, Paul encourage l'Église à rechercher les dons parce qu'ils sont donnés pour l'épanouissement de la famille de l'Église. Il écrit à 1 Corinthiens 14, 1, « Recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels. » Dans ces 3 chapitres, Paul abordera quelques questions fondamentales dans le premier chapitre. Premièrement, que signifie être spirituel? 2, quels critères doivent être utilisés pour déterminer ce qui est du Saint-Esprit ou non? Et puis 3, comment les chrétiens doivent-ils exercer les dons spirituels dans l'assemblée réunie? Voici le déroulement de l'argument de Paul, juste donner un aperçu. Unis dans l'esprit un seul Dieu, l'œuvre dans un seul corps. Il y a le fondement de la théologie pour les dons spirituels. Paul parle de la diversité des membres au sein du corps. Il poursuit avec l'amour, la voie par excellence pour une église. Après avoir posé ses fondations, il va répondre aux questions sur les questions que les Corinthiens demandaient, l'exercice approprié de la prophétie des langues. Et finit la section avec l'encouragement d'observer l'ordre de la pratique de dons spirituels. Ça, c'est juste un aperçu global. Qu'est-ce qu'on veut? J'espère que chacun va conclure. Je prie que chacun d'entre nous termine cette série avec les conclusions suivantes. 6 résultats visés par la série. 1. Un amour plus grand pour Jésus et son corps de l'Église. 2. Une plus grande appréciation pour l'œuvre diverse des dieux à travers le seul corps de Christ. Que chacun d'entre nous découvre ses dons spirituels. Ça, c'est le point 3. Et que chacun d'entre nous soit activé pour servir en poursuivant l'appel de Dieu sur nos vies. Oui, 4. Que chacun d'entre nous soit activé pour servir. C'est à propos de poursuivre l'appel de Dieu sur nos vies. Paul dit à son disciple Timothée que poursuis le don de Christ qui est en toi. 5, que Dieu soit glorifié alors que nous poursuivions son ministère ensemble. Et 6, que la famille de l'Église s'épanouisse. OK, entrons dans le passage d'aujourd'hui. Voici le plan d'aujourd'hui, le discernement par la confession, la diversité au sein de l'unité et puis la détermination pour l'épanouissement. Et commençons avec le premier. Paul commence par aborder nos craintes. La bonne nouvelle est que Dieu a équipé l'Église pour discerner l'œuvre de l'Esprit, ce qui est de Dieu ou pas. Le chapitre 12:1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne en parlant par l'Esprit des dieux ne dit Jésus est anathème. Dans ces versets, Paul rappelle aux Corinthiens, avant de devenir disciple de Jésus, les Corinthiens adoraient les idoles muettes. Paul accumule le verbe pour souligner que les Corinthiens étaient continuellement égarés par des puissances démoniaques lors des banquets dans les temples et des processions religieuses qui étaient très courants dans le monde gréco-romain. Comme il écrit dans 1 Corinthiens 10:20, quand ils participaient à ces services de culte païen, il faisait des offrandes aux démons. Corinthe était un lieu spirituellement chargé. Dans les cultes des dieux, par exemple, Apollon, on a la photo des ruines de ce temple à Corinthe. Dans l'adoration de ces dieux, Apollon, on pratiquait des discours extatiques, inintelligibles et frénétiques. Il est intéressant de noter qu'Apollon était le dieu des arts, de la musique et de la prophétie. Les religions à mystère impliquaient souvent des états extatiques où les adeptes parlaient avec des sons incompréhensibles, une pratique qu'ils appelaient glossolalie. Et à un certain niveau, ces pratiques païennes étaient ce que les croyants corinthiens voyaient dans l'Église. Satan est le grand imitateur des langues, des dons de l'Esprit. Il va imiter les langues, les guérisons, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Et Paul parle à propos des faux prophètes et des faux enseignants. Et il le dit dans 2 Corinthiens 11:14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Certains Corinthiens avaient des préoccupations légitimes concernant l'exercice de dons spirituels dans l'Église. Comment pouvaient-ils discerner ce qui venait du Seigneur et ce qui ne venait pas? Nous pouvons avoir les mêmes préoccupations similaires aujourd'hui. Dépendamment de votre expérience religieuse, les trans spirituels et les discours statiques sont pratiqués dans les religions traditionnelles africaines, Ces transes spirituelles sont pratiquées dans les religions traditionnelles, les religions orientales et autres. Et comment pouvons-nous discerner? La première chose que Paul fait est d'assurer aux Corinthiens qu'ils peuvent discerner. Un disciple de Jésus rempli du Saint-Esprit ne dira jamais « Jésus est anathème ». Un disciple de Jésus ne blasphémera jamais le nom de Jésus, mais les démons le feront. Ainsi, un état frénétique avec un discours extatique n'est pas une garantie de l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi, que personne sous la direction d'un pouvoir démoniaque ne peut confesser Jésus est Seigneur. Le démon ne peut pas faire cette confession. Cette confession la plus basique faite par tous les chrétiens à travers le monde depuis la résurrection de Jésus-Christ affirme la majesté de Jésus comme celui qui est ressuscité d'entre les morts pour devenir le seul Seigneur universel au-dessus de tous les autres soi-disant Seigneurs. Cette confession déclare aussi une allégeance absolue à Jésus et accepte son autorité absolue sur toute la vie. C'est le test décisif pour savoir si le Saint-Esprit est à l'œuvre ou non. Jésus-Christ est Seigneur. C'est la seule. Les Corinthiens sont impressionnés par les langues des anges, impressionnés par les pouvoirs miraculeux, impressionnés par la foi pour déplacer les montagnes et les paroles prophétiques. Dieu est ému par autre chose. Il porte attention. Dieu porte plus attention à ceux qui confessent humblement Jésus comme Seigneur. Chacun d'entre eux, celui qui confesse que Jésus est Seigneur, a l'Esprit de Dieu en lui. Les dons spirituels sont étonnants et merveilleux, mais la chose la plus puissante, que elles sont bonnes pour l'Église, la famille de Dieu, mais la chose la plus puissante que l'Esprit puisse faire en une personne est de l'amener à reconnaître Jésus comme Seigneur, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Ce qui rend le culte chrétien spirituel, ce n'est pas les phénomènes spirituels en tant que tels, mais l'exaltation de Jésus comme Seigneur. Cette confession de base définit ce que signifie être spirituel et non quelque énoncé extatique. Aucun disciple de Jésus ne doit être rabaissé. Il n'y a pas de place dans le corps de Christ pour un groupe élitiste des personnes surnaturelles douées qui étaient qui étalent leur super spiritualité. Ainsi, tout d'abord, le seul Jésus que nous confessons comme Seigneur et Jésus s'est humilié. Il ne s'est pas il ne s'était pas enorgueilli de sa puissance. Et tout d'abord, c'est une autre façon de discerner ce qui se passe, ce qui est glorifié. Alors, le premier point basé sur ces versets, les disciples de Jésus sont équipés pour discerner. Ensuite, deuxièmement, il élargit le spectre des dons spirituels avec un cadre théologique robuste. Il présente la diversité au sein de l'unité. Avant de lire le verset 4 et 6, nous devons savoir que la manière la plus courante pour les lettres du Nouveau Testament de se référer à Dieu le Père et avec le mot Dieu est la manière la plus courante de se référer à Dieu le Fils et avec le mot Seigneur. Le mot qui parle plus du Fils. Et les deux sont de divinité. Ah, ok, allons. Il y a la diversité des dons, mais le même esprit. Cinq, diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sont trois personnes en une. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu. La Trinité, trois personnes en une, égales en essence, mais avec des rôles différents. Ceci est vraiment important, c'est la fondation. Et il y avait une étude qui avait été menée, et puis on a posé des questions à des groupes de... La question a été posée, est-ce que le Saint-Esprit est une force ou un être, mais est une force et pas un être Et puis la question ici était, tu es neutre, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Le Saint-Esprit est une force, mais pas une personne. 12% des évangéliques étaient d'accord avec, d'une certaine façon. 41% étaient extrêmement d'accord avec ça, que c'était une force, pas une personne humaine, pas une personne. Les gens regardent Star Wars plus qu'ils lisent la Bible. Les trois personnes de la Trinité collaborent ensemble dans la distribution des dons spirituels. Des dons variés sont donnés par le même Esprit sous le même Seigneur Jésus, rendu puissant par le même Dieu. Tous les dons spirituels ont une seule source, le Dieu trinitaire. Veuillez noter, il est impossible de séparer l'œuvre de l'Esprit de l'œuvre de Jésus et de l'œuvre du Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La diversité au sein de l'unité appartient au caractère de Dieu lui-même. Je vais dire quelque chose. La diversité des personnes divines au sein de l'unité de la Trinité doit se refléter dans la diversité des dons spirituels au sein de l'unité du corps de Christ. Je vais le dire encore. La diversité des personnes divines au sein de l'unité de la Trinité doit se refléter dans la diversité des dons spirituels au sein de l'unité du corps de Christ. La diversité et non l'uniformité est essentielle pour une Église en bonne santé. L'Esprit de Dieu veille à ce qu'il y ait une diversité des dons dans le corps du Christ. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Voici une définition par J.D. Dunn. Les dons spirituels sont l'expérience de la grâce divine s'exprimant de manière particulière à travers un croyant individuel dans un acte ou une parole généralement, mais pas toujours pour le bénéfice des autres. Les dons spirituels sont l'expérience de la grâce divine exprimant de manière particulière à travers un croyant individuel dans un acte ou une parole généralement, mais pas toujours pour le bénéfice des autres. Les dons ne sont pas un badge de spiritualité, mais sont la preuve de la grâce de Dieu. Le même Dieu agissant à travers les trois différentes personnes qui sont tous un. Dans les versets 4-6, les dons spirituels. Les dons spirituels, les services et les activités sont intégrés. L'unité... La diversité aide, sert l'unité. Les peuples de Dieu sont nombreux, mais nous sommes tous un seul corps. Basé sur le verset que nous avons lu, la diversité dans l'unité se manifeste par la variété des dons différents. Tous les dons spirituels ont la même source. Trois, tous les dons spirituels, services et activités sont rendus puissants par le même Dieu. Ok. Après avoir posé ces solides fondements théologiques, Paul souligne la détermination pour l'épanouissement. Deux déclarations générales au verset 7 et 11. Parle du fait que chacun est gratifié de dons. Elles encadrent une liste d'exemples des dons spirituels. Verset 7. Mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Encore une fois, quelques commentaires généraux peuvent être faits. Chaque disciple de Jésus est gratifié d'un don spirituel. Sachez, en tant que disciple de Jésus, chacun d'entre vous a un don de l'Esprit par le Saint-Esprit. L'Esprit agit dans et à travers chaque chrétien dans la communauté de foi. 2. Les dons sont donnés aux membres individuels du corps pour l'épanouissement, l'avantage et le bénéfice de tout le corps, et non pour un statut personnel ou pour l'image ou le prestige. C'est pour l'épanouissement du corps. 3. Tout don spirituel donné à une personne est un don de grâce donné à tout le corps de Christ. Alors, si vous avez reçu un don du Seigneur, c'est un don à tout le corps, afin qu'il soit exercé pour le service des autres, pour la gloire de Dieu. Chaque don est une manifestation de l'Esprit. Un don témoigne de la présence de l'Esprit. C'est une action, une parole qui révèle l'activité habilitante, dynamisante de l'Esprit dans ta vie. Un don de spirituel n'est pas un talent naturel ou un potentiel caché en nous. C'est un don de Dieu. Les dons spirituels sont distribués souverainement comme Dieu le veut. Ils ne sont pas donnés sur la base des mérites ou de la performance ou d'un accomplissement spirituel. Chacun a quelque chose et personne n'a tout. Si tu veux un pasteur ou un leader de l'Église qui dit qu'il a tous ses dons spirituels, faites attention. Faites attention. À partir du verset 8 à 10, Paul parle de comment chacun a été doté de l'Esprit. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, une autre, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Cette liste n'est pas exhaustive ou complète, mais représentative. Et Paul, il juste vient à la conclusion que ces dons se manifestent dans l'exercice de l'Église d'une façon ou d'une autre. Il ne fait aucune distinction entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Mais de nombreuses églises aujourd'hui trouveraient les 9 dons listés plutôt extraordinaires. En fait, certains rejetteraient carrément certains de ces dons ou en limiteraient sévèrement l'exercice. La limitation de ces dons n'est généralement pas basée sur le sens réel des Écritures, mais sur une méthode d'interprétation ou un acte théologique superposé aux Écritures. Examinons brièvement les 9 dons, juste pour aiguiser notre appétit. Plus tard dans cette série, nous chercherons à fournir la définition plus robuste de chaque don spirituel pour encourager l'appréciation, la compréhension et la pratique des dons spirituels. Aujourd'hui, on va juste aller avec un aperçu. 8. Les expressions paroles de sagesse et paroles de connaissance n'apparaissent nulle part ailleurs dans la Bible. Nous avons vu dans notre étude de 1 Corinthiens que la sagesse et la connaissance était d'un intérêt particulier pour les Corinthiens. Certains voient ces dons comme une perspicacité donnée par Dieu dans le mystère de l'Église. Certains vont interpréter ces sagesses comme le don de sagesse et de connaissance sont contrastés avec... elles sont correctives. D'autres voient ces paroles comme l'application spontanée d'une perspicacité, d'une sagesse biblique pour aider la famille d'Église ou une personne individuelle à répondre à une situation donnée. Il est intéressant de noter que la connaissance apparaît dans la révélation et la prophétie, dans 1 Corinthiens 14, 16. Et au verset 9, on voit le don de foi n'est pas la foi salvatrice que tous les chrétiens possèdent. Ce don est souvent lié aux deux dons suivant la guérison et les miracles. Une personne ayant le don de foi croit Dieu pour des choses apparemment impossibles. Qu'il s'agisse de guérison physique, de provisions miraculeuses, de percées évangélistiques ou quoi que ce soit. Le don de prophétie au verset 10 est également compris de différentes manières. Certains voient ce don comme équivalent à une prédication ou un enseignement inspiré. Un sermon est véritablement la proclamation de la parole de Dieu inspirée. Mais le Nouveau Testament utilise d'autres mots pour la prédication. Certains qui adhèrent à cette vision de la prédication ou de l'enseignement inspiré remplaceront fonctionnellement le Saint-Esprit par la Bible. Alors, nous voulons facilement affirmer que la Bible est inspirée par l'Esprit et qu'elle est autoritaire, mais elle n'est pas la personne du Saint-Esprit, la Bible. Beaucoup comprendraient la prophétie comme un message intelligible, inspiré par Dieu, et livré oralement dans une situation donnée. Mais comme Paul l'écrit, elle peut être donnée pour corriger, convaincre, édifier, encourager ou consoler l'assemblée réunie. Elle dit aussi que ses paroles doivent être testées et pesées par l'Église, l'assemblée. C'est pourquoi le don suivant dans leur liste, la capacité de discerner les esprits, est étroitement lié à la prophétie. Là où le don de prophétie est exercé, l'Église doit être équilibrée pour distinguer entre l'œuvre du Saint-Esprit et l'influence des démons, ou l'œuvre de la chair humaine. Même s'il est pleinement conscient de ce besoin de discernement, Paul encourage les Corinthiens à désirer ardemment ces dons de prophétie. Pourquoi? En février, nous consacrerons un sermon entier à la prophétie, aux langues et à l'interprétation, parce que Paul y consacre tout un chapitre. Le mot « langue » porte le sens de langage. Encore une fois, certains diraient qu'il s'agit de la capacité surnaturelle de parler dans des langues humaines connues que le locuteur ne connaît pas, comme à la Pentecôte dans Actes 2. D'autres se référeraient à la description des dons par Paul dans 1 Corinthiens 14 et diraient qu'il s'agit d'un langage de prière ou de louange à Dieu pour l'édification de la personne ainsi dotée. À Corinthe, ils disent que la langue ne suit peut-être pas le modèle des langues humaines connues, mais il s'agit néanmoins d'un langage et non d'un... celui qui parlait devait être interprété pour les autres qui étaient réunis. Le don de langue et d'interprétation, c'est définitivement l'enfant problème à Corinthe. C'est pourquoi ils sont placés à la fin de cette liste, je pense. Ils étaient surestimés. Ils étaient les signes d'une super spiritualisée causant la division. Pourquoi même considérer aujourd'hui ces dons s'ils peuvent causer la confusion? S'ils peuvent apporter la confusion. Notre peur de l'abus des dons spirituels peut nous amener à nous éloigner de ce que Dieu a pour nous. Si nous avons peur de l'avion, nous ne visiterons peut-être jamais un autre continent. Si nous avons peur du rejet, nous ne connaîtrons peut-être jamais une amitié proche. Si nous avons peur de faux enseignements, nous n'entendrons peut-être pas la parole de Dieu enseignée avec exactitude. La peur n'est pas un bon guide. Dieu dote son peuple de la capacité de discerner ce qui est et ce qui n'est pas de lui. Dieu dote son peuple d'une multitude de dons pour l'épanouissement de toute la famille d'Église. Nous devons nous demander aujourd'hui, je voudrais juste finir cette partie avec une question. Sommes-nous satisfaits de ce qui est ordinaire? Voulons-nous tous l'Esprit de Dieu pour aujourd'hui? Souvenons-nous de ceci. Vouloir ce que Dieu a pour nous ne commence pas à courir derrière certaines expériences. Ça commence avec avec la soumission à Jésus comme Seigneur. Tournons-nous vers la table du Seigneur. Quand nous venons à la table du Seigneur, nous communions avec Jésus, nous confessons qu'il est le Seigneur. Nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous à travers sa vie, sa mort, et qu'il nous a aimés jusqu'à la fin. Il est allé à la croix, il est mort à notre place. Nous nous souvenons que c'est juste à cause de lui que nous sommes ici aujourd'hui, sachant le Dieu le Père, le, Saint, le Fils et le Saint-Esprit dans nos vies. Jésus est mort et puis il a été ressuscité et puis il est allé vers le Père, assis à côté du Père. Et le Père a envoyé, ils ont envoyé le Saint-Esprit qui demeure avec nous et au milieu de nous, nous rendant un. Nous nous souvenons de notre unité avec Dieu, de notre unité les uns les autres. Si vous n'êtes pas disciple de Jésus, c'est là peut-être un moment de reddition à lui. Vous pouvez voir comment on se souvient de ce qu'il a fait à travers la mort et la résurrection. Si vous n'êtes pas disciple de Jésus, cela peut être un moment de reddition à lui en confessant Jésus comme Seigneur dans ta vie. Là où tu tournes de ton indépendance à une vie soumise à lui. Pour nous, comme disciples de Jésus, c'est un moment d'être reconnaissant, un moment d'examiner nos vies. Nous nous souvenons qu'aucun d'entre nous ne suit Jésus parfaitement. Nous confessons nos péchés, nous renouvelons notre engagement à suivre Jésus comme Seigneur et nous renouvelons notre engagement les uns envers les autres.